Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Merci de votre fidélité à ce programme. Élection des gouverneurs des 14 provinces. Nous allons faire le point tout à l'heure avec nos invités. Nous aurons en ligne tout à l'heure Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des électeurs. Il sera là tout à l'heure pour échanger avec nous par rapport aux préparatifs de ces élections. Vous voulez également participer, vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder un thème qui va certainement vous intéresser. Comment valoriser les essences des bois de la République démocratique du Congo? On en a plus de près de 970 espèces forestières telles que le tali, tola, iroko, l'ébène noire, etc., la phromosia, wenge et d'autres espèces. Alors, comment créer une chaîne de valeur autour de toutes ces espèces? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Pour participer, composez le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Marcel Ngomombala Keba assure la coordination, Tati Mapoukou à la réalisation, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde, Jody Daniel Keshama au micro. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54. Ou alors par email femmeleader@gmail.com.
En République démocratique du Congo, la CENI a annoncé que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs prévues le 6 avril prochain dans 14 provinces sont reportées à la date du 6 mai. Ce sont les contraintes budgétaires qui sont à la base de ce report, selon cette institution d'appui à la démocratie. En rapport avec le récent calendrier, le processus de réception des candidatures est déjà clos. 67 dossiers des candidatures ont été déposés, dont 11 femmes et 56 hommes. Aucune candidature n'a été réceptionnée à la province de Lolomami. Alors, la période d'enregistrement a été prolongée jusqu'au 24 mars dernier. Voilà, tout est déjà clôturé. Mais ces élections sont reportées parce qu'il n'y a pas de moyens. Nous avons en ligne Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des électeurs. Monsieur Jérôme, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodin Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. On devrait avoir également un intervenant du côté de la CENI, mais pour l'instant, la CENI ne veut pas communiquer là-dessus. Alors, Jérôme Bonceau, nous parlons de l'élection des gouverneurs des 14 provinces. Là, c'est encore une fois reporté, c'est reporté pour raison des contraintes budgétaires. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces élections soient finalement organisées? Qu'est-ce qu'il faut pour mobiliser les moyens?
La première chose, c'est les moyens ne sont pas mobilisés. Les moyens sont déjà disponibles au niveau au niveau du gouvernement. Le gouvernement avait déjà mobilisé le moyen, mis à la disposition du ministre de Finances, et qui devait, avec la commission électorale indépendante, CENI, se mettre d'accord sur le plan de décaissement du moyen. Mais il y a eu un malentendu, ce qui a poussé, ce qui a fait que les élections puissent être reportées. Le malentendu consistant en quoi? Parce que la CENI devait se conformer procédure que la banque a imposée à tous les utilisateurs de leur compte pour dire qu'on a plafonné le retrait. Et on ne devait pas dépasser par jour le retrait de 10 000 dollars. Or, la CENI avait besoin de millions de dollars et ce qui a rendu difficile la CENI de retirer 10 000 pour avoir l'argent à temps et financer l'opération de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Et ça a bloqué la machine. Et nous pensons que nous avons formulé notre demande au niveau du gouvernement, au niveau du ministre des Finances pour qu'il puisse inscrire tout à fait cessante Madame la gouverneure de la banque pour que la CENI puisse jouir d'une dérogation à ce qu'il puisse faire le retrait au-delà de 10 000 dollars, c'est-à-dire au-delà d'un terme de millions. Nous pensons que c'est ce qui semblerait être fait pour que il n'y ait plus encore deuxième report. Parce que si les élections, les premières élections de gouverneur et vice-gouverneur, c'est une élection test pour la CENI. La CENI qui doit investir dans sa reconstruction de la confiance. Si ça va encore connaître un autre report, ça va beaucoup frustrer, ça va beaucoup déranger l'opinion. Et c'est pour nous qu'ils disent, OK, on va le faire. Mais il y a un point du côté organisation. Les élections, une des vertus des élections démocratiques, c'est la compétition. Quand vous avez énuméré le nombre de candidatures qui sont déposées à la CENI, nous pensons que les candidatures qui vont répondre aux critères doivent être maintenus, mais qu'il n'y ait pas une façon d'éliminer d'autres candidatures, parce que ce sont des candidatures de concurrents. Telle plateforme a déposé son ticket, il faut que tout le monde puisse se conformer au ticket de telle plateforme. Non, à ce moment-là, ça ne sera pas une élection démocratique parce qu'il n'y a pas la compétition. Donnons la chance à tous les compétiteurs, gouverneurs titulaires et gouverneurs, vice-gouverneurs, pour que le ticket qui répond aux critères puisse avoir la chance de passer. Mais qu'est-ce qu'on utilise comme alibi? On veut imposer ça si le candidat est candidat sur le ticket du président de la République? Non! Le président de la République a dit tout haut, lors de sa descente dans des provinces, il a dit qu'il n'a pas un candidat imposé, il n'a pas un candidat de gouverneur. Mais c'est à la population, c'est aux députés provinciaux de voir qui conviendrait pour être désigné comme candidat, comme gouverneur. Donc qu'on puisse mettre fin à ce trafic d'influence que certaines plateformes ou bien certains politiciens véreux puissent faire, agiter ça comme un épouvantail. Pour éliminer d'autres candidats. Ça, c'est l'autre fait. L'autre fait, c'est quoi? C'est quand on va faire ce travail, qu'on puisse mettre du sérieux lors du contentieux de candidatures, du contentieux des listes et du contentieux des listes, qu'il y ait du sérieux à ce niveau-là, de sorte que ce premier test, élection de gouverneur et vice-gouverneur, qui est le premier test pour le nouveau leadership de la CENI, puisse avoir un succès et sur le plan organisationnel.
Oui, M. Jérôme Bosson.
Oui, et c'est pourquoi nous disons que nous devons, cette fois-ci, être regardants pour que ce report, qu'on puisse connaître deuxième report.
Mais en revenant sur cette question de financement, vous dites que l'argent est disponible, mais c'est un problème de plafonnement. La CENI ne peut pas retirer plus de 10 000 dollars. Mais auparavant, on n'a jamais connu ce genre de situation. Pourquoi on n'a pas pris des dispositions avant pour éviter ce genre de situation?
Vous savez, Jamie, c'est un problème de planification. Un problème de planification et un malentendu. Parce que quand on gère en matière de gestion, c'est la planification des CENI. La CENI a son plan de décaissement. Le ministère des Finances et celui des budgets devaient harmoniser leur vue pour que l'argent puisse être décaissé. Mais quand tout d'un coup, on est surpris pour dire non, vous devez vous conformer à la procédure normale de la banque de 10 000 dollars. C'est comme si on n'avait pas cette vision-là de planifier les choses en avance afin d'atteindre l'objectif. L'organisation de l'élection de gouverneur. Nous disons en quelque sorte, c'était une certaine improvisation de part et d'autre. Donc, on devait, de toute façon, nous pensons, nous avons dit que la CENI devait, à sa dotation, Et cette dotation de la CENI devait être alimentée régulièrement par le ministère de Finances. Mais là aussi, on voit de quoi. Tantôt, c'est le ministère des Finances qui voulait se situer en lieu et place de la CENI pour faire passer certaines opérations. Et tout ça, ce sont des problèmes.
Jérôme Bosso, qu'est-ce qui explique c'est quoi qu'à répétition entre le ministère des Finances et la CENI? Comment expliquer cela?
Nous pensons qu'il y a ce que la CENI même avait épinglé dans sa feuille de route, une des contraintes, la volonté politique. C'est là nous avons, tout d'un coup, épinglé qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas la volonté politique au niveau du ministère des Finances pour que les choses puissent aller de l'avant. Or, si ça arrivait si cela arriverait pour les grandes échéances de 2023, ça va bloquer la machine. Et la machine, on risquerait de connaître un glissement des opérations électorales. Ça serait difficile et très, 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 très dangereux.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer, pour qu'il n'y ait plus ce genre de malentendus entre le ministère des Finances et la CENI?
Non, nous avons dit que le ministère des Finances doit reconnaître que la CENI doit jouir de son autonomie administrative et financière, et la CENI est libre de passer les opérations selon son plan de décaissement. Donc, le ministère des Finances ne doit pas violer les articles 6 et 7 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, où on reconnaît l'autonomie administrative et financière de la CENI, où on reconnaît à la CENI son pouvoir de faire ses opérations. Donc, vous avez vu dernièrement qu'il y avait un ping-pong entre le ministère des Finances et la CENI pour l'acquisition de véhicules. Et c'est le ministère des Finances qui devait passer la commande en lieu et place de la CENI. C'est le ministère des Finances qui voulait s'ériger en caissière de la CENI. Et ce que nous avons décrié, nous avons dit non, ça ne devait pas se faire comme ça dans ce monde déjà évolué. Ça ne devait pas se faire comme ça. Il faut reconnaître à chaque institution son autonomie, son indépendance. Et c'est là, nous pensons qu'avec tout ce qu'on a fait, formulé comme un certain nombre de critiques au niveau du gouvernement, qu'on laisse la CENI faire ce travail, parce que le temps qui est devant nous pour 2023, c'est un temps déjà réduit, avec un grand retard. Est-ce que ça va, si on va agir au décaissement de fonds à compte-gouttes, et à fond, les fonds ne sont pas disponibilisés à temps, et nous avons peur de voir que le rendez-vous de 2023 ne serait pas tenu.
Alors, comme il y a ce report jusqu'à la date du 6 mai, faut-il encore ouvrir la réception des candidatures? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut donner la chance à tout le monde de postuler. On ne doit pas imposer des candidats de tel ou tel autre regroupement.
Mais c'est ce qui a été fait. La CENI a fait une prolongation pour endosser d'autres candidatures. C'est ce qu'on a clôturé, il y a de cela 3 jours, on a clôturé cela. C'est au niveau des tri de candidatures, c'est au niveau de la liste définitive de candidatures. Parce que c'est là où certains regroupements politiques veulent jouer un sale jeu, un jeu antidémocratique pour bandir aux gens telle candidature. Non, trafic d'influence en matière des élections, nous devons mettre la foi là-dessus. C'est pas nécessaire, c'est pas démocratique. Pour dire non, ça c'est tel candidat pour tel candidat du président de la République. Le président de la République n'a pas un candidat, n'a pas un ticket gouverneur ou vice-gouverneur. Le président de la République, d'ailleurs, la loi l'interdit d'intervenir à ce niveau-là. Si c'est le président de la République lui-même allait nommer le gouverneur par ordonnance directement, sans passer par ce mécanisme qui est constitutionnel, où les députés provinciaux devaient se réunir pour élire le gouverneur et le vice-gouverneur. Donc, nous devons demander, nous devons faire beaucoup de pression sur les familles politiques de ne pas tourner encore la bonne volonté de l'opinion pour dire pour voter parce que celui-ci, il est candidat de notre regroupement politique. Nous sommes un regroupement politique proche soit de la présidence, soit proche de la majorité. Non, non et non, on donne la chance à tout le monde. Qu'on ne pousse pas, ben, si il y a une famille politique qui vient brandir un tel candidat, qu'on puisse les dénoncer. Qu'on puisse les dénoncer, c'est un jeu malsain, antidémocratique. On doit le faire, on doit les dénoncer à temps. L'élection, c'est une compétition. La compétition, on donne tout le monde la chance, nous le répétons, que le meilleur gagne. C'est lui qui a des critères et qu'on ne vienne pas encore nous imposer des gouverneurs imposés qui ont eu un rendement au rabais au niveau des provinces. Et le président de la République, lors de sa descente dans des provinces, il a été interpellé pour le comportement de certains gouverneurs qui se montraient beaucoup plus incompétents.
Alors, nous savons que lors des précédentes élections, les élections des gouverneurs, des sénateurs étaient beaucoup plus entachées des cas de corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette fois-ci, qu'on ne puisse plus revivre ces genres de situations?
Et justement, c'est ce que nous nous battons. Nous nous battons pour les réformes électorales en cours. On a déposé au niveau de l'Assemblée nationale, de sorte que même le président de la République l'avait épinglé dans ses discours, de sorte que le gouverneur, puisque vous voulez être élu au suffrage universel direct, c'est là où on doit changer le mode de scrutin de gouverneur. Et quand on dit le mode de changer le mode de scrutin de gouverneur, là on va toucher à la Constitution pour que le scrutin de gouverneur puisse être le scrutin direct et non indirect. Parce que la corruption, aujourd'hui même le cas de gouverneur, l'élection du mois de mai, il y a ceux qui présentent casquer plus de 80 000, 50 000, 60 000 pour acheter le ticket gouverneur. Or, si c'est toute la population, si c'est tout Kinshasa qui devait élire, toutes les 24 communes de Kinshasa qui devaient élire le gouverneur, le corrupteur n'allait pas corrompre toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa et ses résidents en province. Et c'est pourquoi nous devons vraiment nous investir à ce que ce mode de scrutin puisse changer afin de mettre fin à la corruption qui va se trouver. On va se trouver devant un corps réduit de 25 ou 30 candidats gouverneurs, députés provinciaux. On leur donne, on les soigne aux petits oignons, et ces gens-là, ils deviendront comme s'ils ont été un peu drogués financièrement. Et ils vont prendre n'importe qui. Et pour éviter ça, nous devons faire. Pourquoi nous tenons beaucoup sur les réformes électorales quand on va attaquer la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale?
Bien, nous parlons de l'élection des gouverneurs dans 14 provinces. Comment avancent les préparatifs? Vous avez des questions et préoccupations? Vous voulez intervenir? Appelez au 081 890 63 94.
Résolument engagé à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, la BRA Congo lance la troisième édition du prix Pierre Castel RDC. Vous êtes de nationalité congolaise, âgé entre 18 et 45 ans et êtes à la tête d'une entreprise légalement constituée évoluant dans l'agriculture, l'agroalimentaire ou l'agritech. Vous êtes résident de l'Équateur, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maindombe, Mongala ou Sud-Ubangi. Le prix Pierre Castel vous revient du 15 mars au 15 avril 2022. Participez en soumissionnant votre projet sur le site www.bracongo.cd pour gagner une dotation financière de 10 000 ou 15 000 euros et des formations en ligne avec le Centre International de Genève. Pour plus d'informations, contactez-nous au 082 85 00 112. Bracongo Durable, engagé pour les générations futures.
Radio Capi, le souffle du Congo.
Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui des préparatifs de l'élection des gouverneurs dans 14 provinces de la République. Déjà en ligne, Kachai de Kanyuka et Piero Pania de Lubumbashi. Kachai, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à Monsieur Jérôme Mombosso, l'invité de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup Monsieur Jody. Il y a certaines choses qui ne se disent pas tout haut. Monsieur Jody, parce que parfois, Monsieur Jérôme Mbonso se contente de ce qui se passe à Kinshasa sans savoir aussi ce qui se passe en province. Parce que l'Union sacrée a pris les provinces en état. Les mêmes méthodes, les mêmes stratégies utilisées à l'époque par le régime Kabila reviennent petit à petit, Monsieur Jody, dans le régime Tshisekedi. Parfois, ce n'est pas Tshisekedi qui est à la base. Ceux-là qui gouvernent avec Tshisekedi sont en train de remettre les choses telles qu'elles se passaient à l'époque. Parce que M. Jérôme Mbosso dit qu'il n'y a pas de problème par rapport au financement du gouverneur. Alors qu'il oubliait qu'il y a eu un couac entre les ministres des Finances et le président de la CENI par rapport au financement des élections et aux frais de fonctionnement de la CENI. Il y a eu des couacs. Certains ont polémiqué dans les réseaux sociaux, sur le média. Nous avons tous suivi. Mais il dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas s'il a vraiment posé la question au président de la CENI pour qu'il lui dise si réellement il n'y a pas de problème de financement. Parce que c'est ce problème-là qui se pose. Si les élections ont été reportées parce qu'elles devraient avoir normalement lieu en date du 6 avril, mais reportée en date du 6 mai pour manque de financement et certains couacs politiques qui ne sont pas jusqu'ici arrangés dans l'Union sacrée, je dois lui rappeler que le président de la CENI avait soulevé un problème majeur du non-financement des élections par le gouvernement jusqu'ici, lequel financement qui a été justifié, je dirais mal justifié par le ministre des Finances, mais je ne sais pas si actuellement il peut bien nous renseigner que le financement a lieu très bien pour permettre à la CENI d'organiser les élections ici en province. Deuxièmement, monsieur Joudi, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de candidats l'Union sacrée. Non. Vous savez, lorsqu'on a formé l'Union sacrée, tous les gouverneurs qui n'étaient pas dans la même philosophie que le gouvernement central, ces gouverneurs-là ont été déchus. Ça, il doit le savoir. Maintenant, quand on veut organiser les élections en province, on veut que tout candidat, gouverneur des provinces et vice-gouverneur, soit la philosophie du pouvoir central. Au cas contraire, ce gouverneur-là ne partagera pas les mêmes croyances avec le pouvoir. C'est ainsi que, ici au Kasaï central, M. Jody, nous avons vu dans les jours passés, au mois de mars, d'ailleurs nous en sommes encore, au mois de février, nous avons vu certains députés nationaux de l'Union sacrée qui sont venus lorsque la feuille a été publiée. L'Union sacrée a déjà publié la feuille de candidats qui doivent être élus gouverneurs pour les tickets Union sacrée. Ici en province du Kasaï central, nous avons un ticket Union sacrée, lequel ticket qui a été soutenu par les députés nationaux venus de Kinshasa, mobilisant et conscientisant les députés provinciaux à ce qu'ils puissent élire ce ticket-là.
Alors quand on fonctionne en fonction des tickets, est-ce que c'est toujours un exercice démocratique?
Pardon?
Quand on fonctionne... On fait des choses selon les tickets. Est-ce que c'est toujours un exercice démocratique?
Ce n'est pas un exercice démocratique. Là, ça devient un dictat.
D'accord,
on
merci.
On est dans la dictature. Alors,
d'accord, merci.
Je voulais demander à M. Jérôme Mbonso.
Oui.
Est-ce que parce que nous avons ces tickets-là, les tickets ont été soutenus par les députés nationaux. Les députés provinciaux ont posé un problème, une condition. Pour que ces tickets soient élus, que nous soyons aussi payés. Au cas contraire, nous allons recourir à ceux-là qui ont l'argent pour qu'ils puissent nous aider parce que ça fait 36 mois que nous ne sommes pas payés. Peut-il rencontrer ces moyens-là de députés pour que les tickets Union sacrée soient élus et aussi les élections organisées en toute affaire de cause? Merci.
Bien. Piero Pagna de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour l'invité et bonjour à tout toute la population qui attend l'élection de leur gouverneur.
Quelle est votre question, Piero?
Oh oui, avant de poser ma question, j'aimerais parler un peu sur l'organisation de cette élection. Mais quand bien même que la province du Haut-Katanga n'est pas concernée, mais celle de notre voisin, les Lualaba, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que on a vu un gouverneur intérimaire qui y est toujours là, pendant que son titulaire n'est pas en fonction, mais on organise les élections ici. Cette province n'est toujours pas concernée. Alors, ce qui me concerne plus souvent, c'est ma province d'origine, la province de la Lomami, avec le chef de Kabinda. Si on a vu le calendrier que la CENI avait posté auparavant, ce calendrier-là n'était pas arrivé à sa finalisation. On a vu directement la CENI reporter cette élection, soit disant qu'il y a eu des difficultés, notamment sur la signature des formulaires des responsables des partis ou regroupements politiques qui sont basés surtout à Kinshasa, la certification des documents constitutionnels des dossiers de candidataires de gouverneurs et le retrait des perceptions auprès de la DGRA de tout consort. Ah, ça ne me concerne pas. Et c'est cette difficulté qui avait fait à ce que la province de la Lomami, à l'époque où on avait clôturé, on pouvait clôturer selon le premier calendrier, la candidature, la province n'avait pas enregistré aucun candidat gouverneur parce qu'il y avait le dictat à partir de Kinshasa.
D'accord. Avait, alors, quelle est la question avait... Pierrot, rapidement, les autres attendent. Quelle est la question que vous adressez à l'invité, rapidement?
Voilà, merci, je dis, même si vous me coupez, c'est l'idée que j'avais. À Kabinda, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est le dictat qui vient de c'est l'Union sacrée.
D'accord, donc c'est toujours oui, c'est toujours cette affaire des dictats. Merci.
Oui, oui. L'Union sacrée qui a
merci d'avoir appelé. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jolie.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est votre question par rapport aux préparatifs de l'élection des gouverneurs?
Oui, personnellement, je pense qu'il faut enlever la notion. Peut-être c'est une proposition que je donne, hein. Pour enlever la motion de soutien des gouverneurs au niveau provincial dans nos lois. Parce que au niveau national, jusque là, il y a un exemple qu'on vient d'avoir où l'un gouvernement s'est destitué. Et depuis lors, il y avait une stabilité dans ce sens-là, où le gouvernement national n'a jamais été destitué par ce fait-là. Et je pense, comme c'est de notre coutume au niveau provincial, où on voit les provinces vivre pendant un bon moment sans gouvernement, moi je pense qu'il faut enlever cette notion ici de la motion pour favoriser la stabilité à ce stade-là. Parce qu'on n'est pas content, peuple, de voir à tout moment les politiques s'élever et sanctionner un gouvernement et une CENI qui n'est pas à mesure d'organiser les élections dans les délais légaux. Parce que le gouvernement en soi n'a pas voulu, ou soit le gouvernement n'a pas les moyens. Moi, je pense que la solution serait d'enlever cette motion au niveau. Si nous pensons que les institutions provinciales doivent exister, qu'on enlève cette notion de la sanction, parce que beaucoup de politiciens à ce niveau-là s'en ont abusé et ils n'ont pas favorisé la bonne gestion au niveau. Parce que vous n'êtes pas ignoré, lorsqu'une institution, soit une province vit sans gouvernement, on ne sait pas. Comment les choses marchent pouvaient bonnement marcher. Donc j'ai la proposition que je pense c'est cela. Et puis il y a une autre solution que je voulais aussi dire. Mon cher, organiser les élections, c'est juste avoir les isoloirs, les députés sont là, ça ne demande même pas l'argent à mon avis. On a des anciens isoloirs qui sont là, qui pouvaient servir. On peut même créer des...
Gaston, faut-il recourir à la machine à voter comme on l'a fait avant ou pas?
Bon, même s'il faut courir à la machine, pas ça, c'est pas moi qui décide, mais nous savons qu'il y a une loi qui est dans ce sens-là. Mais les machines à voter sont là, vous comprenez? Il suffit de prendre ces machines-là, les députés sont connus, ils se présentent un jour dans une salle. S'il faut leur donner même 10$ pour les transports, vous leur donnez. L'essentiel est que le gouvernement soit là pour gérer. C'est pas question de dire qu'il n'y a pas de moyens, parce que quel moyen que vous voulez? Et quelle volonté politique que vous voulez? Parce que la loi dit que lorsqu'un gouvernement provincial est destitué, il faut un délai bien précis pour organiser les élections afin que les choses remarchent normalement. Mais lorsque nous faisons tarder les choses tout en évoquant des moyens, moi je ne sais pas quel type de moyens que vous faites allusion. Hein, les élections, ce sont des simples choses qu'on peut faire, comme d'autres pays les font, avec des matériaux qui existent déjà. On a des machines à voter qui sont là. Mmh. Il suffit d'adapter ça par rapport aux candidats qui vont concourir et ceux qui vont voter, les électeurs votent. Et on a un gouvernement qui est mis en place dans un délai record. Et les choses marchent normalement. Parce que vous savez, lorsqu'il n'y a pas un gouvernement, c'est l'anarchie. On a vu ça avec Amer ici, qui a justifié sa gestion par le fait qu'il n'y avait pas un gouvernement. Et vous avez plus forte raison au niveau provincial.
D'accord, merci Gaston. Merci, on a compris. Jérôme Bonso, vous avez la parole.
Oui, pour notre ami Katia qui parle que l'Union sacrée a pris les provinces en otage. Non, l'Union sacrée n'a pas le droit de prendre les provinces en otage. Si l'Union sacrée avait à prendre les provinces en otage, on ne devait pas organiser les élections de gouverneurs. Du moins, à ce moment, l'Union sacrée aurait imposé déjà le gouverneur. Ce propre gouverneur au niveau de province, sans passer par l'élection, en les plébiscitant, c'est tout. Mais étant donné que la bonne élection est là, cela n'empêche pas l'Union sacrée à l'Union de s'étiquer. C'est tout à fait normal. C'est un jeu démocratique. Mais quand à dire que c'est tel qui doit passer, non. Ça, c'est antidémocratique à combattre et à condamner. On donne la chance à tout compétiteur pour faire cela. Et notre ami a parlé du quoi Est-ce que vous êtes sûr que oui, le financement est déjà là? Si le financement pour l'élection du gouverneur n'était pas disponible, on n'allait pas donner la deuxième date? Parce que nous avons dit que la CENI ne va pas blaguer à ce niveau-là. Parce que ça va des études sa crédibilité. Et quand la CENI a réuni le moyen pour l'élection du gouverneur, c'est pourquoi la CENI a eu le courage et la ferme détermination de fixer la nouvelle date pour le mois de mai pour l'élection du gouverneur. Donc du côté, le problème, l'argent ne se pose pas. Et pour le gouverneur candidat indépendant, oui, qu'est-ce que direz-vous des candidats indépendants? Parce que dans l'élection, dans les tickets gouverneurs, il y a aussi les tickets des candidats indépendants. Et c'est là aussi, ça va relancer le débat, ça va relancer la compétition électorale. Donc c'est pour vous dire que si l'Union Sacrée savait que c'est elle seule qui allait prendre le monopole, il n'allait pas accepter de conclure à ce que ces tickets puissent aussi être confrontés aux tickets des candidats indépendants. Et c'est pourquoi nous disons qu'on peut aller dans ce sens-là.
Bien.
Donc, je... À ce que ce notre ami Tani qui vient de parler de l'OMAMI, oui, on a déjà des candidats pour l'OMAMI et Kabinda. Casson, on doit sanctionner le gouvernement qui stabilise. Oui, vous savez que nos provinces sont déstabilisées par les nombreuses motions des députés provinciaux. On s'est rendu compte que ce n'était plus nos normales. Et certains qualifieraient ces motions-là, motions alimentaires. Parce qu'ils ont fait mener du gouverneur leur fonds de commerce. Si le gouverneur ne leur donne pas suffisamment de moyens pour répondre à leurs besoins personnels, et on crée un mécanisme. Et par entre temps, on déstabilise les exécutifs provinciaux. Prenez toutes les provinces. On a des soucis pour la province de ville de Kinshasa où le gouverneur n'a jamais été inquiété. Mais les 25 provinces qui sont restées, tous les gouverneurs, le chute de la fonction par les nombreuses motions des députés provinciaux. Et c'est pourquoi nous devons voir dans notre loi fondamentale quel mécanisme qui pourrait empêcher les députés provinciaux de se comporter comme... Donc, les députés provinciaux n'ont pas le souci, excusez-moi, le souci du développement de leur province. Leur souci, c'est leur vécu quotidien. Combien ils ont produit des riz, dans quelle province où les députés provinciaux ont déjà produit plus de 5 ou 6 édits. Il n'y en a pas. Ce n'est que débat. Mais pour ce qu'ils avaient conditionné la reprise, non. Ils viennent de faire une déclaration. Ils ont levé mon de grève pour dire que à la rentrée de ce mois de fin mars, ils vont reprendre les choses parce qu'ils ont eu toutes les garanties de la part du gouvernement de la République. De la part du président de la République lui-même et le Premier ministre, ils sont engagés qu'ils vont épurer leurs arriérés. Et le travail va se faire. Mais cela ne va pas empêcher qu'ils puissent recourir à la corruption. Parce que l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, comme celle des sénateurs, on a toujours vu, toujours dans l'électorat et aux députés provinciaux, on y a toujours la corruption qui flotte. Mais il faudrait qu'il y ait des mesures pour traquer les corrompus et les corrupteurs et les juger publiquement. Je pense qu'à ce moment-là, on mettra fin à cette pratique malhonnête qui est la corruption. Des élus.
Bien, Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des électeurs, l'Inélite, merci. Nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission et excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, nous parlons de l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces de la République. Comment évoluent les préparatifs? Nous allons accueillir à présent notre intervenant. Il s'agit de Monsieur Luc Loutala, le chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL, en sigle. Luc Loutala, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, vous allez bien?
Bien, merci, bienvenue dans cette émission. Alors, l'élection des gouverneurs est reportée à la date du 6 mai pour raison des financements. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter ce genre de situations et organiser ces élections dans le délai?
D'abord, je pense qu'il faut qu'il faudrait que les acteurs se prennent au sérieux eux-mêmes. Ça, c'est la première condition. Et deuxième chose, il faudrait que les choses se fassent selon les standards, parce que le domaine électoral, la gestion du domaine électoral, est un domaine qui devrait impliquer en réalité tout le monde. Les élections n'appartiennent pas à la CENI, les élections n'appartiennent pas aux candidats, les élections appartiennent en fait à toute la population et à ce qu'on appelle les différentes parties prenantes. L'impression que la gestion de ce processus se donne, c'est comme si c'était le recrutement dans une petite société privée et que ce n'était pas une affaire de tout le monde. Et donc je pense que le point de départ déjà est parti de l'actualisation du calendrier lui-même. L'actualisation du calendrier a été accompagnée sans que le budget soit communiqué. Je pense que la CIMOCEL a eu à communiquer là-dessus et a demandé à la CENI de rentrer dans une gestion professionnelle du processus électoral. Et une gestion professionnelle du processus électoral implique le respect des étapes. La première étape, c'est la planification et la budgétisation. Il y a avant ça ce qu'on appelle le cadre légal, et on sait que la CENI a déjà un certain cadre légal qui lui permet de fonctionner. Et donc, à partir du moment où la CENI, sur base du cadre légal, passe à la planification, donc elle produit les calendriers et produit le budget, elle doit passer à la négociation des budgets. Et ces outils doivent être publiés, tout le monde doit savoir. Et donc, à partir de ce moment, le gouvernement qui finance s'engage dans ce qu'on appelle un plan d'engagement. Et donc, le gouvernement dit à la CENI, à telle période, moi, je vais te donner autant d'argent pour permettre de faire ceci et ceci et cela. Et il se sait que, malheureusement, pour la CENI actuelle, si le calendrier des élections de province, l'élection des gouverneurs de province du temps des Nanga avait été accompagné du budget, le calendrier de l'élection des gouverneurs de province à problème qui a été publié par la CENI actuelle n'a pas été accompagné de la production du budget. Et on a demandé que ce budget soit publié. Et donc, on assiste en fait à une nébuleuse. Est-ce que la CENI a transmis le budget au gouvernement? Est-ce que la CENI a négocié avec le gouvernement les échéances de financement de ce budget? Est-ce que la CENI a fini sa planification? Et si on patauge déjà juste pour l'organisation de l'élection des gouverneurs dans les provinces à problème, est-ce que ça rassure sur la gestion du processus global de 2023. Donc, il y a un tout petit peu toutes ces inquiétudes qui partent de la planification à l'implication des parties prenantes. On a vraiment l'impression que c'est une élection qui appartient à une certaine catégorie et que c'est pas une histoire nationale, c'est pas une histoire des provinces, c'est une histoire des clans politiques avec une planification suffisamment qui donne à redire, quoi. Voilà plus ou moins le tableau que cela donne. Et je rappelle que la CIMOCEL a, en son temps, exhorté la CENI à produire à la fois le calendrier de gestion de tout le processus accompagné du budget. Et à ce jour, je ne sais pas si au niveau de Radio Capi, vous avez vu le budget que la CENI a demandé pour l'élection de ses gouverneurs, mais nous n'en avons pas possession.
Voilà. Donc, c'est, vous dites que c'est tout simplement un problème de planification. Il y a une certaine nébuleuse autour de... Et certains ont même parlé d'un jeu de ping-pong, des couacs entre la CENI et le ministère de Finances. Alors, on ne sait pas très bien où se trouve le problème. On va accueillir...
Oui, allô, je suis là.
Bien. On va accueillir Gérard depuis Ndjougou. Bonjour. Gérard, bonjour. Gérard n'est pas en ligne, il va certainement nous rappeler. Alors, je disais tout à l'heure, Monsieur Luc Loutin, là, certains auditeurs ont déploré ces couacs, ces jeux de ping-pong entre la CENI et le ministère des Finances. Donc, cela démontre à suffisance qu'il y a un sérieux problème de planification.
Pas seulement de planification, mais aussi de transparence. Réfléchissons à contrario. Si la CENI avait communiqué au ministère, au gouvernement, donc au ministère des Finances, le calendrier accompagné du budget et que tout le monde avait connaissance que la CENI a effectivement demandé tel montant, et si la CENI avait négocié les échéanciers des paiements, en ce moment-là, on n'aurait pas eu de ping-pong. Donc, ce ping-pong assez malsain par ailleurs et qui n'honore personne, et la conséquence d'un faible professionnalisme, je crois. Il y a un faible professionnalisme et en fait, il y a une carence de respect de ce qu'on appelle les principes directeurs de la gestion du processus électoral. Et je crois qu'il y a lieu d'exhorter vraiment la CENI à élever la barre assez haut pour relever le défi, parce qu'on est dans un pays, dans un contexte où il faut absolument consolider la démocratie. Et la consolidation de la démocratie implique des ambitions, des valeurs assez élevées qui impliquent les différentes parties prenantes et qui les laissent s'exprimer et qui les fassent participer. Or, cela, en ce moment, n'est pas ce que l'on vit, quoi.
Bien, on va accueillir Gérard Ndjougou. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Gérard.
Oui, ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, c'est que pour les élections, la loi n'était pas mauvaise, mais c'est seulement l'application qui pose des problèmes. Alors, si on ramenait cette élection-là des gouverneurs au suffrage direct, ce serait vraiment très bien. Je pense que là, ça allait bien marcher. Et puis même les présidentielles, et ce qui nous dérange surtout, c'est la fois passée, par exemple, ce que nous avons vu comme corruption, au lieu de publier directement, on avait caché, au lieu d'afficher, on avait interdit même l'affichage, il y avait eu même des débauchages, alors on ne sait finalement pas si ça continuerait dans cette condition, on n'aura pas toujours parlé des élections transparentes. Même les témoins ont été écartés de certains bureaux de vote. Là, avec dans de telles conditions, on ne saura jamais parler de la transparence de l'élection. Ça, je pense que si on a vraiment évoqué une bonne foi, cette fois-ci, il fallait que tout se passe avec les témoins et puis que l'affichage soit vraiment au clair et puis que les votes soient comptabilisés centre par centre, même bureau par bureau, là, en tout cas, on sera sûr. Sinon, ça décourage. Et puis, même l'élection, le vote devient, elle passe pas inutile pour nous autres qui sommes électeurs. Je pense que c'est tout ce que je peux dire.
Bien, merci beaucoup. Monsieur Gérard de Ndjougou, okay. Anitouri. Monsieur Luc Loutala, votre réaction?
Oui, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Hein. Je crois qu'il épingle la question de rassurer les électeurs. C'est effectivement l'un des cœurs, la confiance, susciter la confiance des parties prenantes dans le processus électoral. Et je crois qu'effectivement, le peuple congolais, c'est un peuple constitué de 480 ethnies, tribus et consorts. Donc, c'est un peuple assez ouvert au principe de la démocratie et de la diversité. Et donc, le plus important, c'est de faire que le Congo se dise, nous avons des élections, nous avons choisi nos chefs. Et il y a tout ce pari qui relève à la CENI de consolider la confiance dans la démocratie. Et donc, je pense qu'on est à un stade, à un virage très délicat, où c'est effectivement, nous devons travailler à ce que les différents acteurs accompagnent la population ou accompagnent la CENI à relever le grand défi de donner à la population congolaise un véritable processus électoral. Et quand on parle de véritable processus électoral, ça veut dire il y a les principes directeurs. Un, c'est le respect de la loi. Deux, c'est la transparence. Trois, c'est l'inclusion des différents acteurs. Et ensuite, vous avez d'autres principes directeurs assez cardinaux, tels que l'intégrité du vote, et l'implication de tout le monde et tout ça. Donc, il est important que l'on sorte de cette léthargie suffisamment dangereuse pour la démocratie, parce que si les choses continuent comme ça, il est fort à faire qu'il y aura, comme le disait Gérard, une grande démotivation de la part des parties prenantes, la grosse partie prenante, c'est la population, parce que c'est elle qui vote au finish.
Bien, alors cette élection est reportée à la date du 6 mai. Alors comment, d'après vous maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire pour corriger peut-être certaines erreurs qu'il y a eu ou manque de planification pour que cette fois-ci, que cela ne revienne plus?
Alors il faut refaire exactement ce qu'il devait faire depuis le départ. Ça veut dire c'est le ABC de la gestion des élections. Malheureusement, il n'y a que le ABC pour commencer à lire. Et donc, il faut répartir sur le ABC. Un, c'est la planification. Et deux, la négociation de financement. Est-ce que, en ce moment ici, la CENI a communiqué, et les parties prenantes sont au courant, que la CENI a communiqué son calendrier réaménagé comme celui-ci, et en même temps, le budget? Est-ce que quand on a fixé la nouvelle date, il y a un échéancier de décaissement sur lequel la CENI et le gouvernement, le ministère des Finances se sont engagés? À ces questions, je n'ai pas de réponse. Mais la grosse inquiétude, c'est que le patinage, on peut dire patinage, peut-être bien, retenons qu'on patine, avec la gestion de ce mini scrutin des élections, c'est un jeu d'enfant en fait, organiser ça, qu'est-ce qu'il en sera des véritables échéances électorales, couplées législatives? Ceci ne donne pas une très bonne image, ceci ne rassure pas sur les perspectives. Donc c'est vraiment encourager ceux qui gèrent le processus à revenir sur le ABC des standards de gestion. Communiquer, susciter la confiance et communiquer avec une entière transparence sur les outils et dire à la population, voilà, on s'est entendu avec le gouvernement, voici le budget, voilà comment se fera le décaissement. À partir de ce moment-là, il y a toute la rédévabilité, la responsabilité que l'on peut mettre sur la table. Et on peut dire, à telle échéance, le ministère des Finances devait décaisser tel montant, ça n'a pas été fait ou ça a été fait, et que la responsabilité du retard est à telle et à telle. Ceci dit, ce petit jeu de report, d'amusement, de ping-pong, en fait, il lance déjà le glas du glissement, quoi.
Bien, merci Monsieur Luc Lutala. Je rappelle que vous êtes chargé de communication, de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Au revoir.